Vous écoutez RTL.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Effectivement, vous le savez, les grands destins font partie des thèmes que l'on aime aborder ici. On va vous raconter la vie de Karl Lagerfeld dans un court instant.
Et puis tout à l'heure, à 14h30, les chasseurs d'épaves, ils plongent à la découverte des trésors de l'histoire qui dorment dans les fonds marins, ou alors, plus terrible, ils partent à la recherche des disparus en mer, comme le joueur de football Emiliano Sala et le pilote de l'avion qui les transportait.
Et tout de suite, un look, un talent, un dessinateur, un couturier, Karl Lagerfeld.
RTL.
Ah, l'amour des bons mots, vacheries et autres aphorismes. Depuis 1983, année où il intègre Chanel, Karl Lagerfeld n'avait jamais raté aucune fin de défilé. Jusqu'à ce jour de janvier 2019, où la mariée rejoint seule Virginie Viard, la directrice du studio. Un communiqué officiel évoque brièvement son état de fatigue.
La curiosité est un vilain défaut.
Je ne peux pas boire d'alcool, je m'endors tout de suite. Ah oui, je déteste l'idée de posséder. J'aime trouver, acheter, collectionner, mais après il faut s'en débarrasser.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Bonjour Laurent Alain Caron.
Bonjour Sidonie.
Bonjour Thomas.
Vous êtes journaliste, réalisateur de documentaires. Karl Lagerfeld vient de mourir à l'âge de 85 ans après une hospitalisation d'urgence. C'était hier soir à l'hôpital américain de Neuilly. Est-ce que vous en savez plus sur les causes de sa mort ?
Pas tellement plus, vous savez, Karl Lagerfeld était un homme très mystérieux, très secret, il se protégeait beaucoup, et notamment des choses sur la maladie, il avait très peur de la maladie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort d'une longue maladie, enfin d'une maladie un peu compliquée, moi j'en sais pas plus, on n'en sait pas plus pour l'instant.
Il avait disparu ces derniers temps, Karl Lagerfeld, on l'avait le 22 janvier dernier, au dernier défilé Chanel, il n'était pas là, il n'a pas salué, c'est Virginie Viard qu'il a fait, qui lui succède d'ailleurs
à la tête de Chanel. On vient de l'apprendre. Oui, c'est la première fois. C'est pas la première fois en fait qu'il salue pas. Il était déjà absent du premier défilé de Chanel en 1982. C'était, je crois que apparemment, d'après ce qu'on me raconte, ça l'a beaucoup marqué le fait de pas pouvoir être là ce jour-là. C'est important pour lui de présenter sa collection. Il a pas pu le faire. Voilà, c'était. Je crois que ça a été vraiment une blessure, peut-être la dernière.
Sa dernière apparition publique ou l'une de ses dernières apparitions publiques. On cherchait ça ensemble juste avant que l'émission démarre. C'était quand ?
Alors, je crois que c'était les illuminations de Noël. Je crois que c'est là où on l'a vu pour la dernière
fin
fois.
Novembre, ouais.
On se souvient de ce décompte qui marquait, voilà, Karl Lagerfeld marquait le temps avec ses mains comme un enfant joyeux, malgré finalement un teint un peu plus pâle que d'habitude. Enfin,
il était déjà marqué par la maladie à ce moment-là.
Alors, moi, c'est peut-être que c'est des choses que je projetais, mais c'est vrai qu'il avait l'air quand même plus fatigué. Et malgré ça, cette espèce d'entrain qui était aussi Karl Lagerfeld, cette énergie incroyable qu'il avait.
Et puis, Karl Lagerfeld, c'est 35 ans à la tête de la maison Chanel, directeur artistique. 35 ans, moi, je ne suis pas dans le monde de la mode, c'est beaucoup, c'est
35
unique.
Ans, c'est énorme, c'est unique. Alors, il y a une autre collaboration qui a duré 55 ans, c'est avec Fendi, et c'est aussi Karl Lagerfeld, c'est-à-dire qu'il est détenteur des deux plus grandes collaborations de l'histoire de la mode. Aujourd'hui, c'est impensable quand on pense à tous les directeurs artistiques qui sont comme ça remplacés avec un turnover incroyable. Lui, voilà, il avait cette capacité à tenir et à régénérer année après année l'ADN des marques.
Alors, si on devait en quelques mots dire pourquoi il a marqué l'histoire de la mode, Karl Lagerfeld? On dit géant de la mode, on dit Kaiser Karl, etc. Oui. etc. Pourquoi?
Parce que il y en a pas deux comme lui. Voilà, il y a pas d'autres Karl Lagerfeld. Il était unique déjà par son look, par la manière dont il se présentait. Toutes ses apparitions étaient guettées comme si c'était une rock star. Il avait comme ça ce look punk et en même temps rock. Mais au-delà de ça, il y avait quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que souvent on dit voilà, Yves Saint Laurent, c'est le smoking, c'est oui. voilà, c'est des pièces emblématiques. Karl Lagerfeld, c'est compliqué, c'est plus compliqué. Je crois que sa force, c'était pas ça. C'était de faire durer les marques, comme on vient de le dire, de pérenniser les marques, d'aller dans le passé, dans l'ADN de la marque pour la régénérer et faire en sorte qu'elle soit totalement actuelle.
Ça veut dire, Laurent Alain Caron, qu'il n'a pas laissé un vêtement, par exemple, Karl Lagerfeld, ou une couleur, ou une attitude?
Il a laissé un personnage. Il a laissé ce qu'il était, il a laissé l'essentiel finalement. Il disait tout le temps, voilà, moi je suis devenu un logo, je suis Lagerfeld. Et finalement, c'est vrai, on pourrait dessiner...
Ce look, voilà. ce style inimitable.
Bon, faut le décrire d'ailleurs, cette silhouette, parce que tout avait un sens dans le look
voilà,
de Karl Lagerfeld.
Alors le catogan, le fameux catogan, les cheveux poudrés.
Alors attendez, le catogan, cheveux poudrés, c'est côté quoi? Ça faisait allusion
à quoi?
Ça, c'est
le côté 18e, c'est-à-dire ouais. qu'évidemment, comme vous le dites, tout réfère à sa propre histoire. C'est-à-dire que le catogan réfère aux années 70, quand Karl Lagerfeld veut être un un personnage du XVIIIe siècle et qu'il est fasciné par un tableau, le tableau de Menzel, qu'il avait petit, et il était fasciné par ces gens qui avaient des perruques. Et donc c'est un petit clin d'œil finalement à cet amour-là.
Il y a aussi le col très haut, voilà, là, qui remonte quasiment à au sommet du cou, quoi, au menton.
Les hauts cols blancs, ça c'était aussi ce que sa mère adorait, c'est-à-dire qu'elle lui disait, voilà, il y a deux modèles, elle lui citait des modèles comme ça de l'Allemagne des années 20, et elle disait, tout le reste c'est de la merde, disait-il.
Et les lunettes noires, alors
1963, je crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'apparaissent les lunettes noires dans son look. C'est vraiment au moment de Chloé, et c'est une manière de se protéger très vite, de se protéger à ses lunettes et finalement d'exister pleinement caché.
Mister Lagerfeld, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Fayard, Laurent Allen Caron, et on va découvrir dans un instant pourquoi Karl Lagerfeld ne s'est jamais, jamais séparé de sa chambre de petit garçon. Restez à l'écoute de la Première Radio de France. À tout de suite les curieux.
Mais la mode, c'est un peu le reflet d'une époque. Et c'est une chose qu'on doit juger à distance. Parce qu'il est difficile, par exemple, d'imaginer le 18e sans les jupes à paniers ou les années 20 sans les robes chemises.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais en même temps, pour moi, c'est un immense tonneau de Danaïde où tout le monde jette ses idées dedans. Et après, c'est la postérité qui décide ce qui était la mode d'une époque ou pas.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, sur RTL.
Karl Lagerfeld dans la curiosité, Karl Lagerfeld, on vient d'entendre qu'il y avait le sens de la formule. Tiens, j'ai retrouvé cette phrase. La vie n'est pas un concours de beauté. L'intelligence perdure, la jeunesse et la beauté sont saisonniers. C'est vrai qu'il avait aussi ce talent, Karl Lagerfeld, de parler de lui et de parler de son métier et de parler de la mode. On est avec le journaliste Laurent Allen Caron qui nous raconte ce grand destin sur RTL. Il vient de mourir à l'âge de 85 ans. Et on remonte à l'enfance, forcément, quand on retrace la vie d'un personnage comme Lagerfeld. Il naît en 1933, on est dans l'Allemagne nazie. Dans quel milieu familial ?
Dans un milieu plutôt protégé, c'est-à-dire qu'il a une mère aimante, un peu castratrice, mais un peu les deux, voilà, comme ça, qui lui fait des petites réflexions pas très sympathiques en lui disant arrête de parler, arrête de jouer du piano, plutôt va dessiner dans ta chambre, ça fera moins de bruit. Donc c'est ce qu'il raconte. Et puis un père plutôt absent, plus âgé, enfin un père âgé, et donc un peu absent. Et il est finalement, Karl Lagerfeld, il trouve son bonheur dans sa chambre, dans sa petite chambre d'enfant, avec ses livres, avec ses papiers, avec ses crayons. Et là, il dessine sans relâche.
Est-ce qu'il dessine des looks, des modèles, des robes ? Est-ce qu'on sait ce qu'il dessine, Karl Lagerfeld, déjà, tout petit garçon ?
La mode est absolument absente de cette période de sa vie, c'est-à-dire que c'est pas du tout la mode là, qui l'intéresse, c'est vraiment, lui, il dit à l'époque, je vais être peintre ou caricaturiste. Peintre parce qu'il admire le tableau dont on a parlé, le tableau de Menzel, le tableau qui est fondateur dans son iconographie personnelle. Et puis, caricaturiste, il adore les livres de caricature, les grands caricaturistes de l'époque, et c'est ça qu'il veut faire, en fait, c'est pas du tout de la mode au départ.
Alors il y a cette histoire quand même très étonnante, vous nous dites qu'il a été marqué par son enfance au point de garder sa chambre.
Oui, sa chambre d'enfant, c'est absolument incroyable. C'est un paradoxe, c'est un homme paradoxal. Il est un homme paradoxal, Karl Lagerfeld, parce qu'il dit tout le temps qu'il n'aime pas le passé est une impasse, etc. Mmh. En fait, quand on fouille un peu, on se rend compte que c'est plus complexe que ça, évidemment. C'est plus nuancé. Il a un lien particulier avec le passé et qui est évidemment manifeste dans la conservation de cette chambre d'enfant qu'il a trimballée dans toutes ses maisons. C'est-à-dire que il y a des gens qui me racontent qu'en effet, quand on allait chez lui, il y avait une pièce avec le petit lit, le bureau, la bergère, etc.
C'est le musée de son enfance, en fait.
C'est comme un musée. Voilà, c'est comme un musée et il s'assoit sur le lit de temps en temps. Enfin, c'est voilà.
Il ne dessinait pas quand il était petit, vous nous racontez forcément des looks, des costumes, des robes. En revanche, il va y avoir un moment choc. On est en 1949 à Hambourg. Il va découvrir la mode.
Voilà, c'est-à-dire que là, en 1949, donc la famille Lagerfeld est revenue vivre à Hambourg, parce qu'ils étaient au nord de Hambourg. Ils reviennent à Hambourg, et là, la mère de Karl Lagerfeld l'emmène à un défilé de mode, qui est un défilé, pas n'importe lequel, c'est Dior, Christian Dior, qui vient défiler en Allemagne. Et là, le petit garçon, plutôt l'adolescent à ce moment-là, découvre vraiment la mode, c'est-à-dire qu'il voit les modèles défiler, les visons, les belles robes, etc. Et là, ça le fascine, c'est-à-dire qu'il dit qu'il aurait été capable de les redessiner deux secondes après, parce qu'il les imprime, en fait. Et là, c'est un déclic.
Et quelques années plus tard, il va arriver à Paris.
Il débarque à Paris, oui.
C'est son rêve, Paris. Ça représente le beau, ça représente le bonheur, ça représente un monde idéalisé. Karl Lagerfeld était quelqu'un qui aimait l'idéal, qui n'aimait pas la réalité, qui sublimait la réalité. Et Paris fait partie de son idéal.
Alors, il n'a pas 20 ans quand il arrive à Paris en 1952. Et pourtant, il est convaincu, il a déjà une ambition, on peut dire ça ?
Il a une ambition qui date pas d'hier, c'est-à-dire que tout petit, il a une ambition. Il raconte qu'un jour, il est sur la terrasse au soleil et qu'il se rêve, comme ça, comme dans un livre de contes, un personnage connu. Et il dit « Je savais que je serais connu, je savais que mon nom serait connu dans la terre entière ». Donc, il y a finalement une vision, très jeune, et puis la réalisation de cette vision.
Et alors, ce qui est incroyable, c'est que, ouais, on est en 54, il y a un concours de la laine.
Ouais.
C'est ça à Paris. Qu'est-ce qu'il va dessiner ? Par qui il va être repéré ? Et alors, quel pote il va se faire ?
Il s'inscrit vraiment un peu par hasard à ce concours. Il voit une affiche dans la rue, il s'inscrit, il dessine un manteau. Et puis finalement, ça plaît. C'est un manteau jaune, très beau, avec une échancrure dans le dos. Et il va gagner ce concours à côté ex aequo d'un autre homme qui est Yves Saint-Laurent, qui n'est pas connu, qui
incroyable.
A dessiné une robe du soir. Donc en fait, finalement, ils apparaissent tous les deux en même temps sur le devant de la scène, et ils vont devenir amis.
Et il y a qui dans le jury ?
Alors, y a
oui, parce qu'ils
ne
sont pas mauvais, hein, les membres du jury, pour avoir détecté la Guerfel et Saint-Laurent le même jour.
Alors, il y a des grands noms de la mode. Hein. À l'époque, il y a Pierre Balmain, il y a Hubert de Givenchy, et c'est finalement Balmain qui va repérer Karl Lagerfeld et qui va lui proposer de travailler pour lui.
Est-ce que c'est le début d'une amitié entre Karl Lagerfeld et Yves Saint-Laurent ?
Absolument, ils se rencontrent ce jour-là, et à partir de là, va naître une amitié très forte entre eux. C'est-à-dire que ce qui est amusant, c'est que... Yves Saint-Laurent débarque d'Oran et c'est Karl Lagerfeld qui va lui faire découvrir Paris. C'est-à-dire, finalement, c'est un Allemand qui va lui faire découvrir Paris. Il connaît Paris par cœur, il l'a idéalisé, cette ville, il connaît toutes les rues, il a une voiture que son père lui a offerte pour ses premiers succès. Et voilà, ils vont sortir le soir ensemble, ils emmènent avec eux la muse de Christian Dior, avec qui ils deviennent amis, Victor Doutrelo. Et c'est le début d'une aventure à 3, à 4, comme ça. Ils sont jeunes, ils ont 20 ans et c'est les années 60 et c'est beau.
La disparition de Karl Lagerfeld sur RTL. Vous publiez, Laurent Alencaron, le mystère Lagerfeld chez Fayard. On va vous raconter ce qui a peut-être brisé ou en tout cas endommagé cette amitié, cette fraternité entre Saint-Laurent et Lagerfeld. C'est une histoire d'amour.
RTL.
Démodé, pas démodé, vous savez. Hein,
la curiosité.
La mode et la musique, c'est identique.
Est un vilain défaut.
On peut créer sa petite musique de chambre soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que mode et musique, pas parce que ça commence tous les deux par un M, c'est des choses qui vont très très bien ensemble.
Un grand destin dans la curiosité, celui du couturier Karl Lagerfeld qui vient de disparaître à l'âge de 85 ans. Et c'est le journaliste et réalisateur Laurent Alencaron qui nous dévoile ses mystères. On racontait le jour en fait où il devient finalement, il se fait repérer par Pierre Balmain lors d'un concours, le concours de la laine à Paris. On est en 1954 et sur le podium, il va y avoir Karl Lagerfeld et Yves Saint-Laurent. Ils vont devenir très amis. Et puis un jour, un homme va s'interposer un peu entre les deux. Quelle histoire va un peu fragiliser leur amitié ?
Alors c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour entre finalement Karl Lagerfeld et un dandy. Un homme qui aime vivre dans l'apparence, comme lui, Jacques de Bachère. Il ne travaille pas. À l'époque, on peut le faire. On peut cultiver son look. Et c'est ce qu'il fait toute la journée, Jacques de Bachère. Et il admire Karl Lagerfeld. Il veut le rencontrer, il le rencontre. Et entre les deux, va naître une histoire d'amour vraiment singulière. C'est-à-dire qu'il y a une absence de rapport entre eux. Il y a quelque chose comme ça de très idéalisé.
De rapport, c'est-à-dire qu'ils ne font pas l'amour, c'est ça ?
C'est ce que lui dit. Voilà, il dit,
ils n'ont jamais fait l'amour.
On n'a jamais fait l'amour ensemble. Ouais. Et ça les place vraiment ailleurs. Ça les place dans une relation complètement comme ça, idéale et idéale, je pense, pour Karl Lagerfeld.
Et Yves Saint-Laurent débarque.
Et Yves Saint-Laurent, voilà, alors ça se passe au 7, le haut lieu de la fête de l'époque, où tout le monde est là, les gens de la télévision, les gens de la mode, ça, tout le monde se croise.
C'est à Paris, ça ?
Ça, c'est à Paris. Ouais. Pardonnez-moi, bien sûr, c'est à Paris, le 7 à Paris. Mm-hmm. Et Karl Lagerfeld est là avec Jacques de Bachère, et Jacques de Bachère va finalement, au fil des soirées et des nuits, tomber amoureux d'Yves Saint-Laurent. Donc alors, compliqué.
Donc, un peu quitté Karl Lagerfeld.
Et oui, mais alors c'est là où il y a une grande différence entre le camp Lagerfeld et le camp Saint-Laurent. Oui. C'est-à-dire que Karl Lagerfeld a toujours dit, mais moi, finalement, en gros, je m'en fous et il reviendra. Et voilà. Il y avait une sorte quand même de hauteur d'âme et de très haut amour, hein, pour citer le poème de Catherine Pozzi qu'il aimait tant. Il y avait comme ça une manière très belle, je trouve, de gérer les choses, les sentiments. Et finalement, il n'en a pas pris ombrage. Évidemment, Jacques est revenu, Jacques de Bachère. Et contrairement à l'autre clan, là, où ça a été plus compliqué, Pierre Berger l'a très très mal pris. Et il y a eu une altercation fameuse au 7 où Pierre Pierre Berger est venu voilà, un peu engueuler Karl Lagerfeld. Que fais-tu finalement avec ton mec?
Laurent, Aline Caron, vous publiez Le Mystère Lagerfeld chez Fayard. Vous l'avez rencontré pour ce livre et aussi pour un documentaire qui avait été diffusé sur France 2. Qu'est-ce qui vous a surpris chez le personnage?
Moi, j'ai pas voulu. Finalement, je me suis plus attaché au contre-champ. Parce que souvent, c'est un homme d'aphorisme, Karl Lagerfeld. C'est un homme de mots. Et c'est vrai que quand on l'interviewait, il y avait un peu toujours les mêmes réponses. Et c'était ça qui était joli aussi. Moi, je voulais aller voir de l'autre côté, c'est-à-dire les gens qui avaient finalement connu Karl Lagerfeld depuis l'Allemagne, des années 50-60, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un autre Karl Lagerfeld, c'est un Karl Lagerfeld plus secret, le Karl Lagerfeld qui ne se montre pas.
Et un Karl Lagerfeld un peu cultivé, un homme de livres, pas seulement de couture, mais de culture, c'est ce que vous dites?
Voilà, on dit souvent c'est un homme de haute couture, c'est un homme de haute culture en fait, Karl Lagerfeld. Il lit énormément, il a énormément de bibliothèques partout, un peu dans toutes ses maisons, 300 000 livres.
Avec c'est toujours les mêmes livres dans chaque bibliothèque, dans toutes les résidences, c'est ce que dit la légende.
Des livres différents, il y a des livres qui le suivent, et c'est ce que j'ai voulu moi raconter dans le livre, c'est qu'il y a quand même des livres qui sont des espèces de bibles pour lui, qui le suivent, qui l'ont suivi toute sa vie, et qui peut-être, en les lisant, permettent de mieux comprendre le personnage.
Vous avez un titre ou deux ou pas, en tête là?
Oui, il y en a plein, il y a Béatrix de Balzac déjà, qui est le premier livre qu'il lit, il a je crois 8 ans, il le découvre dans la bibliothèque de sa mère, qui est une grande lectrice, et elle lui dit je voudrais le lire, et elle lui dit tu n'as qu'à apprendre le français. C'est un petit garçon allemand qui lui dit ça. Hein. Ouais. Et Karl Lagerfeld a appris le français. Voilà.
Une
dizaine d'années, il sait parler trois langues. Il sait parler l'allemand, le français. Et l'allemand, le français.
Et l'anglais.
Et l'anglais, absolument.
Voilà. Laurent Aline Caron, c'est assez révélateur cette première anecdote de son caractère. Et en voilà une autre qui concerne finalement son physique, cette silhouette longiligne qu'on a tous en tête aujourd'hui, le jour de sa disparition. Elle n'a pas toujours été la sienne. Dans les années 90, Karl Lagerfeld, c'est quelques dizaines de kilos supplémentaires.
Quelques dizaines de kilos supplémentaires. Il est déprimé en fait par la mort de Jacques de Bacher, du sida en 1989. Et il le vit évidemment pas bien. Et il y a, il prend du poids, il grossit. Et puis à un moment donné, il se reconnaît plus. Il se dit voilà, je me regarde dans le miroir et je ne reconnais plus l'image. Je ne suis plus un grand couturier allemand. Et là, il décide d'aller consulter quelqu'un pour finalement l'aider à redevenir la silhouette qu'il aimait et qu'il voulait être.
Donc Karl Lagerfeld va s'imposer un régime. Est-ce que ça va être un régime difficile? Comment il s'organise ce régime au quotidien?
C'est un régime très contraignant. Et voilà, il a écrit un livre d'ailleurs à ce sujet. Où
il donne ses bons conseils.
Recettes, voilà. Il donne ses bons conseils.
C'est lui qui cuisinait?
C'est pas lui qui cuisinait. Alors en fait, le nutritionniste qui le conseille lui dit voilà, il y a un certain nombre de règles à suivre. Et là, il l'arrête. Karl Lagerfeld l'arrête. Il lui dit moi, je m'en fous. Vous donnez ça à mes cuisiniers. Moi, ça m'intéresse pas.
Mes cuisiniers.
Voilà. Et donc, ces cuisiniers recueillent les recettes appliquées à Karl Lagerfeld.
Mais je disais, c'est aussi révélateur de son caractère parce qu'il va s'y tenir à un point. Enfin, c'est une volonté absolue par
volonté
rapport à
tenace.
Ce
film, ouais. La règle, c'est la règle. On n'en déroge pas. Il y a ce côté prussien chez lui, ce côté. Je ne déroge pas de la règle.
Il disait quoi? C'est un régime autofasciste?
Voilà, il disait il faut se contrôler et je fais un régime autofasciste. Voilà, il faut être autofasciste avec soi-même. Ça veut dire être extrêmement exigeant en fait.
Tiens, Karl Lagerfeld qui se définit d'une drôle de façon. Tiens, écoutez-le, c'était sur RTL.
Je suis une multinationale à une personne et je n'ai pas d'idée fixe sur l'emploi que je tiens dans la vie. Je fais partie un peu de la mode dans le monde entier, puisque j'ai fait des affaires à Rome, j'ai fait des collections à mon nom au Japon, en France, je fais donc Chanel et Chloé, et en Allemagne, j'ai deux affaires aussi. Donc, je suis quelqu'un qui a des affaires partout et qui dessine dans beaucoup de pays. Et c'est très amusant parce que dans chaque pays, je deviens presque un autre. Et c'est ça qui m'amuse.
Une multinationale dont la vice-présidente était... Choupette, on vous raconte l'histoire de la chatte de Karl Lagerfeld.
Et de peut-être, ses déshéritiers.
Et peut-être aussi qui va hériter de l'Empire Lagerfeld. A tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est une star. Elle a paru dans Vie Magazine, dans Harper's Bazaar, dans W. Elle est partout. Et elle reçoit des offres dingues pour les bouffes de chat. Comme ça, hors question. C'est une femme entretenue à mort.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Elle est la personne la plus difficile de la Terre. Elle mange. Donc, il faut lui présenter trois plats et elle fait son choix. Des croquettes, des pâtés avec du foie de machin volaille, des choses comme ça, et des croquettes en sauce.
RTL. Noël.
Et la star de son cœur, c'était Choupette, Karl Lagerfeld, un destin fascinant. Dans La Curiosité, le grand couturier à la silhouette noire et blanche, le directeur artistique de Chanel depuis 35 ans vient de mourir, on l'a appris ce midi. Laurent Alain Caron, il parle de sa petite chatte Choupette, il l'adorait, il en parlait avec autodérision ou il lui faisait vraiment mener un train de vie incroyable à ce petit chat féminin.
C'était vraiment, vraiment un amour incroyable, mais en même temps on peut se demander, est-ce qu'elle fait pas partie de la panoplie aussi Choupette,
oui.
Est-ce que c'est pas
un accessoire
lunettes, un accessoire. Je pense pas. Je pense qu'il y avait chez lui quand même une certaine solitude et je pense que ce chat pouvait être quand même quelque chose de très important pour lui.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On imagine quand même un empire, beaucoup d'argent. Il a des héritiers, Karl Lagerfeld.
Alors, il dit tout le temps, je n'ai pas de famille. Son grand truc, finalement, dans toutes ses interviews, c'est de dire, voilà, j'ai pas de famille, je choisis les familles d'élection, c'est ça qui m'intéresse, et je n'ai pas de famille de sang, ou en tout cas, je n'en ai plus. Donc, la grande question, oui, en effet, c'est qui va hériter de sa fortune. On ne sait pas, pour l'instant on va le savoir, mais c'est vrai que c'est un vrai mystère.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.